L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui vous fait entendre le Finistère, ou plutôt les gens qui font vivre le Finistère. Il y a beaucoup d'associations à notre micro, il y a parfois aussi des personnes qui parlent en leur nom, mais dont le message peut intéresser tout le monde. Et aujourd'hui, il est question de santé, un sujet ô combien crucial. Vous savez ce qu'on dit, tant qu'on a la santé, mais cette santé peut chanceler, et parfois à cause d'une minuscule bestiole armée de ses bactéries. J'ai nommé cette fois la tique. Notre invité souffre de la maladie de Lyme. On en parle de plus en plus de cette affection. Notre invité en a fait un livre, et comme elle est quimpéroise, on a le plaisir de la recevoir en vrai. Bonjour Marie-Félix.
Bonjour, merci de me recevoir.
En quelques mots, est-ce que déjà vous pouvez nous redire le titre de votre livre, comme ça, ce qu'il est, bon, on l'expliquera plus tard, mais...
Oui, alors il s'appelle Lyme, si les malades savaient, si les médecins pouvaient.
Est-ce que vous pouvez nous décrire le mécanisme de ce qu'on appelle la maladie de Lyme, qui est un peu le terme vulgarisateur en fait de la maladie?
Oui, alors déjà le mécanisme de contamination. On se fait contaminer par une piqûre de tic, c'est ce que l'on connaît le mieux, mais on a découvert que les piqûres de temps pouvaient aussi occasionner la maladie, et on soupçonne d'autres éléments piqueurs tels que les moustiques, tels que les punaises.
Avec la même bactérie incriminée?
Oui. Alors, le souci, c'est qu'il n'y a pas une seule bactérie. On s'est focalisé sur la bactérie Borrelia burgdorferi, mais en réalité, ce que porte à l'intérieur de son corps une tique ou un tan ou un moustique, s'ils sont effectivement contaminateurs, c'est un cocktail de pathogènes, dont la Borrelia, qu'on connaît la mieux. Mais il y a un cocktail de pathogènes qui peuvent être instillés à la faveur d'une piqûre.
Et dans le cas de ce qu'on appelle donc la maladie de Lyme, quels sont les symptômes qui permettent éventuellement de la détecter? Et pas toujours, hein.
Alors, les symptômes. Il y a plusieurs phases à la maladie. La phase numéro 1, qui est asymptomatique. On n'a pas de symptômes. Au mieux, avec de la chance, on va développer le fameux érythème migrant, c'est-à-dire cette rougeur en cible sur le lieu de la piqûre, mais pas forcément sur le lieu. Ça, il faut le savoir.
Ah bon ? On peut avoir un érythème ailleurs ?
Exactement. C'est pas le plus fréquent, bien sûr, mais c'est pas parce qu'on développe un érythème mettons sur le thorax alors qu'on a été piqué sur le ventre qu'il faut pas faire l'association entre la rougeur que l'on observe et la piqûre que l'on a eue. Par ailleurs, cet érythème migrant peut arriver entre quelques jours après, mais jusqu'à 5 mois après la piqûre. Là, c'est le docteur Gozzi qui parle et qui est un des grands spécialistes de la maladie, qui dit avoir vu des érythèmes migrants 5 mois après la piqûre. C'est dire si la personne à qui ça arrive n'a plus en tête d'avoir été piquée 5 mois auparavant. Mais ça reste là des gens chanceux, ceux qui font l'érythème migrant, parce que 50% des personnes ne vont pas voir cette signature, donc cet érythème migrant sur leur corps, et donc ne vont pas s'apercevoir qu'ils ont été contaminés.
Donc première phase de la maladie de Lyme, bon, pas forcément symptomatique comme vous dites. Et puis alors après, dans votre cas en tout cas, ça a été le cas, il y a la forme qu'on pourrait appeler chronique, c'est ça, de la maladie?
Alors, pas forcément. En phase 1, donc je reviens à la précédente, en phase 1, si on est soigné par 15 jours d'antibiotiques, et il y a 80% de chances que la maladie soit bénigne, c'est-à-dire que nous n'en entendions plus jamais parler. Oui. Elle a été endiguée, tout comme toute maladie infectieuse peut l'être grâce à des antibiotiques.
Oui, parce que là, elle a été détectée. Mais effectivement, dans votre cas, elle n'a pas été détectée, en fait.
Exactement. Voilà. 20% des personnes qui ont les bons antibiotiques en phase 1 vont cependant glisser vers ce que vous avez nommé la phase 2, ou bien les gens qui, comme moi, n'ont pas été soignés parce qu'ils n'ont pas détecté cette maladie. Et là, on entame, les ennuis commencent. C'est-à-dire que là, on entame la phase dite symptomatique. Donc on parlera des symptômes après, mais pour ce qui est des soins, si on est soigné, on va être soigné par 4 semaines d'antibiotiques, de mono-antibiothérapie. Ça, c'est ce qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé. C'est ce que sont sommés les médecins de faire.
Donc à quel moment, à peu près, quel délai après la piqûre, en gros
Il n'y a pas de règle. C'est, de toute façon, j'ai envie de dire que c'est le maître mot de la maladie de Lyme, il n'y a pas de règle. Il y a des personnes dont le système immunitaire est suffisamment aguerri, fort, pour rester toute leur vie en phase 1, sans pour autant être soignées. Mais leur système immunitaire est à ce point fort qu'il réussit à endiguer la maladie. Lorsqu'on est en phase 2, on va donc bénéficier de ces 4 semaines d'antibiotiques. Et là, beaucoup d'entre nous vont être guéris, vont ne plus entendre parler de la maladie de Lyme, c'est-à-dire vont être soulagés, je ne sais pas quel terme utiliser, parce que la notion d'éradication complète de la maladie, j'ai un petit doute, ce n'est pas moi qui parle en mon nom, mais les médecins, les spécialistes ont un petit doute.
La question, c'est juste, les bactéries sont encore détectables à cette phase 2 en fait, si on prélevait, je ne sais pas, du sang ou...
Alors là encore, c'est une question en fait très compliquée, dans la mesure où les bactéries, un de leurs premiers boulots, c'est d'échapper au comportement sanguin en se cachant, entre guillemets, dans les placards, c'est-à-dire en se cachant à l'intérieur des tissus, au plus profondément qu'elles le peuvent, et aussi en se cachant dans ce qu'on appelle des kystes. On imagine bien ce que c'est des petites maisons, ou bien dans des biofilms, enfin bref, elles se débrouillent à échapper au système immunitaire. De surcroît, elles se multiplient peu. Par conséquent, elles sont très difficilement détectables. Voilà. Ça fait partie des difficultés donc, de la maladie.
Donc, deuxième antibiothérapie. Vous l'avez eu, ce deuxième traitement antibiotique, enfin, ce premier pour vous, puisque c'était tardif. Vous n'aviez pas été détecté en phase 1.
Alors, absolument pas. Je n'ai pas eu d'antibiotiques parce que je n'étais toujours pas détectée. On pourra dire pourquoi tout à l'heure. Mais en tout cas, oui, j'étais encore aveugle et en errance médicale au stade 2. Donc là, vous avez raison, non soignée par des antibiotiques, eh bien, j'ai glissé vers le stade 3, vers un stade... alors là, c'est une ambiguïté, enfin, comment dire, une contradiction, une opposition plutôt entre les médecins. Certains disent que la forme chronique existe, d'autres pensent qu'elle n'existe pas, un petit peu comme si certains médecins acceptaient l'idée d'un Covid long, alors que d'autres disent que ce Covid long n'existe pas. Voilà, donc...
C'est dû au fait qu'on ne peut pas vraiment détecter la bactérie, je suppose, quoi. C'est à cause de ça, en fait.
Tout à fait. Si elle était... Alors, une anecdote, là, et elle est d'importance, et pas très gaie, c'est qu'un jeune Tchèque qui avait été soigné une fois, puis deux fois, je crois, et qui, malgré ses doubles soins, ses doubles salves d'antibiotiques, se plaignait de maux indescriptibles, a fini par mettre fin à ses jours et a demandé à ce que son cerveau soit analysé, c'est-à-dire qu'on voit si oui ou non, à l'intérieur des tissus là, cérébraux, les borrélies étaient présentes ou pas, et la réponse a été oui. Donc, quelque part, ce jeune homme a prouvé, par son cas, qu'au-delà des traitements antibiotiques, en tout cas dans certains cas, et le sien en faisait partie, la maladie perdure.
Et qu'elle passe, en plus, la fameuse barrière hémato-encéphalique, qu'elle arrive au cerveau, ça c'est un problème aussi. Alors votre cas, vous parlez de d'errance médicale. Hein. Quand vous étiez en phase 2 non diagnostiquée, qu'est-ce que vous ressentiez? C'était quoi les symptômes qui ont commencé à vous mettre la puce à l'oreille, quoi, en fait?
Qui m'ont envahi. Alors, la puce à l'oreille, hélas, je ne l'ai
mauvais
pas.
Mauvais jeu de mots. Hein.
Oui. La puce à l'oreille, je ne l'ai pas eue. Il faut aussi se resituer dans le contexte de l'époque. On était là dans les années 80. Donc, on en connaissait fort peu de choses sur la maladie de Lyme. J'ai quand même 41 années de maladie de Lyme derrière moi. Donc, les symptômes... à cette époque, on était persuadé que les symptômes devaient passer par des arthralgies, douleurs donc articulaires et une grande fatigue, entre autres. Mais c'était vraiment le maître mot, ça, ces deux symptômes. En ce qui me concerne, j'ai échappé aux arthralgies, par contre, je n'ai pas échappé aux cruralgies, je n'ai pas échappé aux sciatiques, je n'ai pas échappé...
Ça, c'est les nerfs, là, c'est là.
Voilà,
là,
et aux problèmes cervicalgies, etc., etc. Et la fatigue, on l'a mise, je crois, sur le dos d'une adolescence un peu attardée, mais en tout cas, pas une fatigue qui ne me permettait plus de me lever. Bref, des signes peut-être un petit peu différents, des signes les plus patents. Mais sur les 70 symptômes recensés, puisqu'il y en a 70, quand je vois la somme des symptômes, oui, j'en ai fait une bonne partie.
Mais en même temps, ces symptômes nerveux auraient pu être liés à une autre pathologie, en fait. C'est ça le problème. Une sciatalgie ou une cruralgie, ça peut être lié à plein de choses, non ?
Tout à fait. C'est là le drame, justement, encore un. C'est-à-dire qu'on parle de la maladie de Lyme comme étant la grande imitatrice, comme l'était la syphilis. Et il faut se mettre à la place et du malade et du médecin qui ont le droit d'être totalement désorientés par le fait que les mots sont fluctuants, s'additionnent, se soustraient, sont très difficiles à décrire parfois. Donc, c'est très très compliqué et c'est, je le dis là, c'est d'une douleur immense.
Et quand est-ce que vous avez eu un nom sur ce que vous aviez ? Quand est-ce que quelqu'un a dit, un médecin a dit, c'est probablement ou sûrement la maladie de Lyme ?
Alors, il y avait eu des suspicions dans les années 2000. La raison aussi, c'est que le père était médecin, mais s'était reconverti au métier de forestier. Et par conséquent, j'étais piquée fréquemment. Donc, certaines personnes, bien sûr, y ont pensé. Et j'ai fait des tests. Mais les tests sont revenus négatifs, comme 40% des tests reviennent négatifs, alors que vous êtes Lymé. C'est ce qu'on appelle les faux négatif. Donc je n'y ai pas échappé, on pourrait développer sur cette histoire de test qui est quand même un problème pour la maladie de Lyme, qui explique l'errance des malades qui sont rassurés, tout comme les médecins qui ne sont pas suffisamment avertis du fait que les tests ne sont pas positifs, ne sont pas fiables. Donc dans mon cas, eh bien, je n'y ai pas échappé et les deux tests que j'ai faits sont revenus négatifs. Par conséquent, je n'ai pas été détectée dans les années 2000. Il a fallu attendre 2017, une médecin pourtant âgée qui aurait eu des raisons de ne pas être au fait de la maladie de Lyme et qui a été peut-être plus intuitive que d'autres et qui savait que les tests n'étaient pas fiables et qui d'ailleurs avait résumé l'affaire de manière magistrale en disant « Lyme, de toute façon, c'est n'importe quoi », en me retendant donc une nouvelle ordonnance, me demandant de refaire un test qui, cette fois-ci, soit parce que j'avais plus d'anticorps, puisque le taux d'anticorps dans le sang est fluctuant, on pourrait développer pour expliquer la raison pour laquelle ça n'est pas linéaire ou croissant, soit parce que le test que j'avais utilisé, ou plutôt qu'on m'avait fait, était plus fiable, puisqu'à cette époque, eh bien, la validité, la fiabilité des tests n'était pas toute équivalente. Il n'y avait pas une homogénéité de la qualité des tests. En tout cas, les tests, cette fois-ci, en 2017, se sont révélés à 3 reprises explosifs.
Ah oui, donc vous êtes sûr, c'est un diagnostic sûr et certain, en fait.
Absolument. Posé.
Et donc, qu'est-ce qu'on vous a proposé comme traitement à partir de ce moment-là ? Donc, c'était très longtemps après, hein, la piqûre supposée. C'est ça, ils ont évalué à quand la piqûre, en fait, la date de la piqûre. Vous ne savez pas trop ?
Si, je sais très bien.
Ah oui ?
Je sais très bien. Alors, j'ai été piquée de nombreuses fois, donc je ne peux pas me souvenir de la piqûre en elle-même. Cependant, je me souviens de 2 choses. La première, c'est les premiers symptômes, donc les sciatiques totalement atypiques qui ne répondaient pas aux critères habituels des sciatiques. Et d'autre part, l'érythème migrant. Et ça, c'est très curieux. J'ai toujours juré au médecin que je n'en avais pas fait. Et c'est là où on s'aperçoit que le cerveau est quand même drôlement structuré, bizarre. Lorsque j'ai été diagnostiquée en 2017, une nuit m'est revenue en flash cet érythème migrant que j'avais fait sur une cuisse et que j'avais montré à ma mère qui pourtant, pharmacien, médecin, m'avait dit « Attends, ça va passer ». Et bien sûr, c'était passé.
C'est passé, oui.
Ah oui, hélas.
Forcément.
Ouais. Et je m'en suis parfaitement souvenue, ainsi que de l'épisode. On peut imaginer que c'est moi, là, maintenant, qui fabule. Cependant, une amie qui vivait avec nous à cette époque, elle s'en souvenait aussi parfaitement. Et elle avait 10-15 ans de plus que moi. Et quand je lui ai dit, je suis malade de Lyme, mais je n'ai pas fait d'érythème migrant, ah si, je m'en suis souvenue. Est-ce que... Et elle m'a dit, mais oui, je m'en souviens parfaitement, de cette immense tâche qu'on n'arrivait pas à faire partir facilement.
Et ça, c'était... Donc, vous aviez quel âge, à peu près
Lorsque j'ai fait cet érythème.
Ouais, là,
Oui, j'avais 20 ans.
D'accord. Donc, on peut dire que vous avez été piqué dans votre adolescence-jeunesse, hein, voilà. Et votre diagnostic, donc votre test positif, vos tests positifs, c'est 20 ans après, enfin, c'est ça, non? À peu près.
35 ans.
Ah ouais, 35 ans. Donc, et alors, donc, on vous propose un traitement. Qu'est-ce qu'on vous a proposé à ce moment-là?
Alors, dans un premier temps, le traitement officiel, conventionnel, recommande, enfin, c'est au-delà de la recommandation. C'est-à-dire qu'on m'a donné 15 jours d'antibiotiques qui n'ont absolument rien fait, mais rien.
Ça veut dire que les tests étaient encore positifs après, c'est ça?
On ne refait même pas. Là, je parle des symptômes.
Ah oui, d'accord. Ça n'a pas changé vos symptômes. Okay.
Et ensuite... des médecins, alors il y a donc, j'évoquais deux groupes de médecins, ceux qui reconnaissent le Lyme chronique et ceux qui ne le reconnaissent pas. Dans un premier temps, je suis allée voir, ne connaissant pas cette subtilité, je suis allée voir les médecins qui ne reconnaissent pas le Lyme chronique dans un centre national de référence et on m'a donné ces 15 jours d'antibiotiques qui n'ont rien fait. Ensuite, ayant compris cette opposition qu'il y avait entre les médecins, je suis allée voir, entre guillemets, l'autre groupe. Et là, m'a été donné un traitement antibiotique beaucoup plus musclé, dont les résultats ont été extrêmement faibles. Et le spécialiste m'a dit, étant donné le degré de contamination voilà, donc, que vous avez maintenant, ce résultat si tiède que vous obtenez ne m'étonne pas beaucoup. Et donc, il tablait sur une amélioration de 5 à 10% des symptômes. Mais comme c'était l'enfer, 10% en moins, ça restait l'enfer.
Et d'autres traitements vous ont été proposés, donc là, cette fois, de traitements purement de symptômes et non pas de la cause?
Alors, après, c'est la débrouille. Et là, je pense que tous les malades de Lyme, s'il y en a qui écoutent, le savent. Cette errance médicale que souvent nous avons vécue, quand même 80% des malades de Lyme... vivent l'errance médicale, souvent pendant plusieurs années, eh bien, cette errance est suivie assez souvent d'une errance dans le traitement. C'est-à-dire qu'après, si les antibiotiques fonctionnent, bingo, c'est extraordinaire, tant mieux. Mais après, si ça ne fonctionne pas, vu que le traitement conventionnel est vraiment... comment dire, au-delà de la recommandation, les médecins sont sommés de donner ce traitement et de ne pas aller au-delà, eh bien après, c'est sauf qui peut. C'est-à-dire qu'on se débrouille comme on peut, et ce sont les réunions de personnes Lymées, et ce sont les associations de personnes Lymées, et ce sont les cafés Lyme, et ce sont les livres, et ce sont tout ce qu'on peut mettre en place entre nous pour essayer d'optimiser les chances que nous avons d'être soulagés. J'ose pas dire guéri.
Oui, qu'est-ce qui vous marche pour vous, en l'occurrence? Qu'est-ce qui a marché pour vous, enfin...
Oui, alors là, vraiment, je ne veux pas faire de prosélytisme, justement parce que plus je rencontre de malades de Lyme, moins j'ai de conviction sur la manière de s'en sortir. Pour certains, ça va être d'augmenter les doses d'antibiotiques.
Pas terrible, oui. Parce que l'antibiorésistance, c'est aussi un autre problème.
C'est de la débrouille. Hein.
Ouais, ouais.
Donc certains vont augmenter les doses d'antibiotiques, pour certains ça va être l'aromathérapie, donc les huiles essentielles, d'autres ça va être la phytothérapie, l'ozonothérapie, la mycothérapie, les caissons hyperbares, l'oxygénothérapie.
Ah oui, oh, bon, on essaye quoi, on tâtonne.
Exactement, c'est vraiment la thérapie de la débrouille. En ce qui me concerne, j'avais été élevée dans une famille de médecins, donc avec une déification de la médecine, et j'étais vraiment biberonné au savoir médical conventionnel et jamais j'aurais imaginé aller vers une autre direction que la médecine conventionnelle. C'est pour ça que j'ai commencé par les antibiotiques, le centre national de référence, bien entendu, ça ne pouvait être que comme ça. N'ayant pas de résultats, eh bien j'ai fait comme les autres, ça a été la débrouille. Donc en ce qui me concerne, l'argent colloïdal a été rédemptoire pendant un an, puis ça a été cette fameuse combinaison d'huiles essentielles qui est le TikTok, interdit en France maintenant et dont on peut s'en procurer en Allemagne. Voilà.
Oui, d'ailleurs, il faudrait dire un mot de ce que font les autres pays, parce que je crois que, par exemple, les tests en Allemagne étaient beaucoup plus fiables avant les tests français, c'est ça ?
Oui, ils sont plus sensibles. Ils sont plus sensibles. J'ai essayé pour le livre de faire une espèce de comparaison. J'ai essayé de voir un peu les comparaisons qu'on pouvait faire entre les pays européens et je n'y suis pas parvenue. Il y a peu de choses. Bien sûr, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, beaucoup d'entre nous convergent quand ils en ont les moyens vers ces pays parce que la maladie de Lyme a la réputation d'être mieux soignée. J'ai vu un petit peu en Angleterre que les médecins généralistes étaient avertis du fait que les tests n'étaient pas fiables. Canada, ça n'a pas grande réputation pour la maladie de Lyme. Et j'ai envie de dire, les États-Unis ont une longueur d'avance sur nous.
Et qu'est-ce qui s'est amélioré quand même, malgré tout, ces dernières années ?
Alors, là, on est à une situation où le syndrome post-piqûre de tique est reconnu en France, mais pas la maladie chronique.
Oui, il y a une petite nuance quand même, hein, c'est ça. C'est-à-dire que le syndrome post, comme vous dites, post-piqûre, ça veut dire qu'on, c'est quoi, c'est quelques mois après la piqûre, en gros
C'est quand même des symptômes résistants au traitement antibiotique. Là, on est vraiment presque dans un jeu de mots, c'est-à-dire pourquoi.
Oui, c'est vrai.
Pourquoi ne pas dire Lyme chronique ? Je fais une parenthèse pour dire que le livre a eu la chance de rencontrer quelques mois, enfin moi, j'ai eu la chance de rencontrer quelques semaines, pardon, avant que le livre ne parte à l'édition, le rapport parlementaire 4318 qui a pour titre « Lyme, comment améliorer la prise en charge des patients ». Sous-entendu, on l'entend tous, les patients ne sont pas pris correctement en charge.
Oui. Ça, c'est...
Voilà. Et j'ai consulté, puisque mon livre, en fait, est une enquête pour essayer de comprendre pourquoi nous avons tant de mal à trouver un chemin de soins, pourquoi nous sommes entre enclume et marteau entre ces deux groupes de médecins qui s'opposent si violemment sur la notion de Lyme chronique. Donc, j'ai mené mon enquête de l'intérieur, avec un angle de vue, somme toute, assez étroit, celui d'un malade. Et je suis tombée quelques semaines avant que le livre ne parte à l'impression, sur le rapport parlementaire. Je l'ai consulté le cœur battant, craignant de m'être trompé. Et ce rapport parlementaire, eh bien, disait la même chose que moi. Et la notion de Lyme chronique, quand on lit le rapport parlementaire, ils font bien attention à ne pas utiliser ce terme, mais c'est évident. C'est évident pour eux.
Donc, en fait, ce que vous souhaiteriez, ça serait quoi ? Des recherches sur une reconnaissance d'un Lyme chronique et des recherches qui iraient avec, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il faudrait, concrètement ?
Bien sûr, exactement ce que vous dites. Et il a été alloué, là, une enveloppe budgétaire importante pour la recherche sur la maladie de Lyme en France. Plus importante encore, c'est un peu logique, aux États-Unis. Et quand je disais qu'ils ont une longueur d'avance, c'est que le Lyme chronique aux États-Unis est reconnu. C'est entériné. C'est-à-dire que Lyme fait partie des 11 maladies infectieuses chronicisables aux États-Unis. Il est aussi prouvé que les tests ne sont pas fiables aux États-Unis. Ça n'a pas encore traversé l'Atlantique. On peut espérer que avec l'argent qui a été alloué, avec ce que nous faisons tous, peut-être est-ce que
ça va s'améliorer.
Ça va être reconnu bientôt.
Et là-bas, aux États-Unis, est-ce que la prise en charge des malades de Lyme chronique est meilleure, de fait ?
Alors, j'aurais pensé que oui. Là, je suis pas certaine de ce que j'avance, mais j'ai demandé à une personne spécialiste, moi-même assez optimiste, en disant « mais là, ça va beaucoup mieux aux États-Unis », et elle de me dire « mais non, les médecins sont encore formatés sur ce qu'ils avaient appris il n'y a pas si longtemps que ça. On peut comprendre qu'il y ait un certain temps nécessaire pour que ce qui a été reconnu au niveau scientifique soit vraiment... entrer et ancrer dans la tête des médecins, c'est possible.
Il faut que les recherches aussi aient eu lieu, qu'il y ait eu suffisamment de recherches, en tout cas, publiées, j'imagine.
Oui, aux États-Unis, apparemment, c'est le cas. Mais il ne faut pas oublier non plus que les médecins généralistes ne pensent pas qu'au Lyme.
Oui,
ils ont
sûr.
Une multitude de maladies auxquelles ils doivent être, pour lesquelles ils doivent être au courant et s'informer. Lyme en fait partie. Ce n'est pas forcément celle vers lesquelles ils iront, parce que c'est une maladie complexe.
Donc votre livre, voilà, c'est « Si les malades savaient et si les médecins pouvaient », donc s'ils pouvaient notamment avoir accès à des études plus poussées sur Lyme. Quand est-ce que vous allez présenter votre livre très prochainement ?
Alors, je présente le livre et surtout, je fais des réunions, enfin des interventions pour informer, prévenir et pour donner espoir aux malades, puisque ça, on ne l'a pas évoqué, mais je le fais en conclusion, c'est que j'ai trouvé un chemin de soins qui fait que depuis 5 ans, malgré mon stade 3 dit lésionnel, c'est-à-dire le stade dit ultime, je me porte quand même drôlement bien. Donc c'est aussi un peu pour en discuter et pour donner espoir, même si, je répète, je ne fais pas de prosélytisme, je sais qu'il n'y a pas de solution miracle pour tout, enfin, qui marcherait pour tout le monde. Donc je serai à la librairie Ravi à Quimper samedi prochain, donc samedi 12 octobre à 16h. Je serai aussi le samedi 9 novembre à 11h à la librairie Dialogue de Morlaix. Et enfin, le samedi 30 novembre, à la médiathèque de Plougastel, à 15h.
Plougastel Saint-Germain.
Plougastel d'Aoula.
Ah, Plougastel alors.
J'ai mal dit. Plougastel.
C'est noté. Très bien. Bah, merci beaucoup, Marie-Félix. On pourra réécouter, bien sûr, cet entretien sur le site internet de Transistor, transistor.bzh.